Je passe à la présentation de notre conférencier ce soir, qui va nous parler de la géographie, où en est, et que peut et que fait, et où en est la géographie aujourd'hui. Il s'agit de Marcel Roncaiolo, qui est né en 1926 à Marseille. Il est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de géographie, docteur ès lettres. Il a commencé professeur de lycée à Marseille, et d'où il vient d'ailleurs. Ensuite, il a été assistant de géographie, puis il a été agrégé répétiteur de géographie et maître assistant à l'école normale supérieure. Il est devenu ensuite directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Bon, je passe sur la biographie. À partir de 1987, il a été professeur, puis professeur émérite à l'Université Paris 10, et en même temps que directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et de 92 à 95, il a été directeur de l'Institut d'urbanisme de Paris. Sa spécialité, vous en serez douté, est l'urbanisme, mais je crois qu'il a une réflexion très large et très générale sur la géographie. Ses publications sont nombreuses. Il a participé à une histoire de la France urbaine au milieu des années 80, une histoire de la France, l'espace français en 89, la ville et ses territoires en 1990, l'imaginaire de Marseille en 1990 toujours, ville et civilisation urbaine en 92, grammaire d'une ville en 96. Voilà, il va nous parler, il va nous livrer ses méditations et ses réflexions sur la géographie aujourd'hui. Merci.
Alors merci mon cher ami de m'avoir présenté de la manière la plus précise et la plus rigoureuse, ce qui évidemment pour le problème que nous nous posons aujourd'hui, où en est la géographie, et parmi les sciences humaines par-dessus le marché, ce qui complique un petit peu les choses, pose évidemment un certain nombre de questions quand vous avez entendu le cours de ma carrière qui a été loin d'être celui d'un géographe, dirons-nous, classique et intégré dans le cursus, si vous voulez, habituel. En fait, j'ai toujours été un marginal un petit peu par rapport à la géographie. J'ai toujours navigué dans des eaux voisines, ce qui permet de voir le paysage de la géographie, peut-être de le sentir mieux que quand on est en plein dedans, et donc de vous parler avec une certaine distance de cette discipline qui pose des problèmes. Elle pose des problèmes parce que la première chose que l'on a à dire, c'est que la géographie, dans le fond, comme beaucoup de sciences, est partie d'abord d'une pratique. Mais elle est restée une pratique, parce que finalement, la géographie, ça correspond dans le fond pour l'homme au désir de se situer, au désir de voir ce qu'il y a à côté de lui, et même un peu plus loin. La géographie a conduit au voyage, elle a conduit à la découverte, elle a conduit, disent certains, ce qui est exact, à la guerre, elle a conduit à toute une série de mouvements de l'homme, mais qui était obligé de connaître tant bien que mal ou de se repérer tant bien que mal dans les régions qu'il traversait. Donc la géographie est aussi itinéraire, exploration, découverte, et je crois que c'est quelque chose qu'elle n'a pas totalement perdu, même dans un monde complètement fermé et connu, comme notre monde aujourd'hui, d'autant plus qu'elle ne s'est pas encore livrée à l'étude de l'espace, l'autre, je dirais, non pas l'espace géographique et l'espace terrestre, mais l'espace qui nous entoure, mais ça ne saurait tarder un jour ou l'autre. Bien, alors donc, quelle est la géographie ? Et d'abord, est-elle une science et est-elle une science humaine ? Est-elle une science ? Beaucoup de mes collègues géographes sont désarçonnés quand ils voient que ceux qui ont réfléchi à la cartographie, si je puis dire, des disciplines, à l'organigramme des disciplines, oublient souvent la géographie. On commence par Auguste Comte, on termine, enfin, c'est assez éloigné de nous déjà, mais enfin, bon, c'est de notre siècle, en fait, de notre, encore de notre siècle, le 20e, on finit avec Piaget, qui est certainement l'homme qui, méthodologiquement, a apporté le plus de réflexions utiles aux géographes, mais qui est en même temps celui qui n'a pas tenu compte de l'existence de la géographie dans sa présentation des différentes sciences. Alors donc, ça pose déjà un problème, et nous verrons que la géographie relève dans le fond de cette définition un peu souple que l'on a donnée déjà pour l'histoire. Paul Venn en particulier avait dit que l'histoire, dans le fond, elle est moins explication qu'explicitation. Je reprendrai volontiers le terme pour la géographie. C'est une doxa et non pas une épistémée, disent d'autres. Bon, on pourrait s'envoyer des mots comme cela, et je préfère, dans le fond, essayer de parler de choses plus concrètes, même à travers des concepts. Science humaine. Ben, tout le problème, c'est de savoir quelle est la géographie, quelle est la position, pardon, de la géographie par rapport à cette ambition première de la discipline, y compris quand elle a voulu devenir une science au XIXe siècle, et à partir des voyages de Humboldt pour finir à la création au XIXe siècle d'écoles géographiques en Allemagne et en France relativement ambitieuses, c'est dans le fond de se situer à l'articulation des sciences de la nature et des sciences de l'homme. L'homme étant aussi, pour une bonne part, nature, il ne faut pas l'oublier. Situation difficile, d'autant plus que la curiosité est venue de voyageurs plutôt portés à s'intéresser aux paysages botaniques, comme Humboldt. Mais en France, par exemple, il y a une géographie, de la géographie, je dirais, qui est assez intéressante. En France, elle a été une discipline née des historiens et s'interrogeant sur les rapports, finalement, entre l'histoire des hommes et le monde, l'environnement naturel qui l'entoure. Alors, vous savez qu'il y a de très vieilles théories là-dessus, par exemple, dans la médecine, depuis Hippocrate, et que... au XVIIIe siècle, même la philosophie des Lumières a repris cette définition, à savoir l'homme est conditionné en grande partie, y compris dans ses maladies et dans sa pathologie, par le milieu qui l'entoure, et en particulier par le milieu naturel. Il y a donc une sorte de paradigme d'origine de cette discipline qui veut que vous l'en traitez des rapports entre l'homme et la nature. Elle est amenée à considérer que la nature peut être, sinon par ses commandements, du moins par ses suggestions et par ce qu'elle offre à l'homme comme possibilité, commande en quelque sorte à l'histoire des hommes. Et il y a trois éléments dans, par exemple, la géographie française qui vont dans ce sens et qui montrent bien cette subordination relative de l'homme à la nature. Ce sont les deux concepts majeurs dans cette géographie quand elle se constitue, et je dirais une pratique, et presque une pratique de librairie. Les deux concepts, c'est le concept de genre de vie, le genre de vie comprenant, je dirais, tout ce qui concerne l'homme, c'est-à-dire l'habitat, la façon de réunir des ressources, de travailler, de se nourrir, de se déplacer, etc., serait en grande partie déterminé ou suggéré ou suscité par le monde naturel qui l'entoure. Bon, c'est le genre de vie du nomade, c'est le genre de vie du pérégrinant, c'est le genre de vie du paysan, mais qui dans telle région est amené à cultiver d'une certaine manière parce qu'il pleut toute l'année, dans d'autres régions d'une autre manière parce qu'il ne pleut pas pendant toute l'année, enfin, etc. Vous voyez toutes ces déterminations qui ont été à l'origine de la géographie et qui replaçaient en quelque sorte le genre de vie dans son contexte naturel. Donc, il y a ce premier concept de genre de vie. Il y a un deuxième concept, c'est que par rapport aux divisions qui sont de l'histoire ou portées par l'histoire ou discutées par l'histoire et qui sont en général, surtout dans la conjoncture de cette fin du XIXe siècle, une histoire essentiellement politique, la géographie avance qu'il y a d'autres formes d'organisation sur la Terre et qui sont des régions, mais des régions, elles aussi, ordonnées, surtout par les caractères naturels, dans la mesure d'ailleurs où ils impliquent par cela même une certaine manière d'organiser les hommes sur ces terres. La notion de région naturelle, le concept de région naturelle, est ce deuxième concept fondateur, je dirais, de la géographie. Et il y a une pratique, et une pratique qui est illustrée en France, alors là encore, par un livre célèbre, Le tableau de la géographie de la France, qui inaugure, presque en introduction, en tout cas en premier tome, l'histoire de France de Lavis, qui est la grande histoire républicaine, laïque et très répandue, à défaut d'être obligatoire, de ces années 1900. Autrement dit, la géographie trace le cadre, définit la scène sur ensuite laquelle l'histoire se déroule. Il y a donc là vraiment une position, si vous voulez, pour la géographie, à l'articulation, mais qui n'est pas une position totalement équilibrée, quelles que soient les réserves que l'on fait sur le degré de liberté relatif de l'homme, d'abord d'interpréter la nature, de prendre telle chose et ne pas prendre telle autre chose, sur la possibilité de s'adapter et même dans une certaine mesure de maîtriser certains éléments de la nature à son avantage. Voilà donc, je dirais, en simplifiant, le point de départ. Et nous pouvons dire dans une certaine mesure qu'aujourd'hui, en retournant d'ailleurs et en retrouvant curieusement la nécessité de s'établir à l'interface des sciences humaines et des sciences de la nature, la géographie quand même a inversé son paradigme, c'est-à-dire qu'elle tend à considérer les espaces, les régions, tout ce qui constitue, si vous voulez, le tissu et la trame de cette Terre sur laquelle nous sommes encore en grande majorité, de les considérer beaucoup plus comme le fait d'une construction humaine, construction qui tient compte, bien entendu, des mécanismes naturels et de l'existence d'une nature. On ne rase pas une montagne comme cela, et on ne traverse pas un océan comme cela, mais dont finalement les traits caractéristiques proviennent beaucoup plus de choix ou d'agrégation de volonté moins consciente des hommes que de quelque chose qui serait déjà inscrit dans les éléments naturels. Autrement dit, il y a un déplacement de responsabilité. Et aujourd'hui encore, je voulais conclure là-dessus, mais je crois qu'il est très bon d'en prendre conscience dès maintenant. Aujourd'hui encore, quand nous nous posons des problèmes de la nature, nous les posons à travers une grille qui est la grille des créations humaines, de nos techniques. Je ne parlerai pas de ce que nous avons connu cette année, vraisemblablement parce que je ne sais pas qui, mais la grande volonté qui tient le monde a voulu fêter aussi l'année du changement de siècle, qui ne sera d'ailleurs opérée qu'en 2001, mais quand même, il faut s'y prendre à l'avance, comme cette université. Et la grande tempête, si vous voulez, de cet automne et l'Erika ont reposé exactement le problème de la géographie œuvre dans le fond des hommes, mais soumise de temps en temps à des mécontentements de la nature ou, plus gravement, à des perversions, je dirais, de la nature que les techniques humaines entraînent. Mécontentements de la nature qui ont brisé, par exemple, tout un système de relations. La tempête a détruit le système électrique. Vous voyez très bien comment nos sociétés bien réglées et bien maîtrisées se développent. elle risque de tomber sur le nez sur cette affaire-là. Et d'autre part, l'ERICA, vous avez bien vu que c'est en fonction d'une certaine organisation économique, de certains besoins, de certaines pratiques, qu'un bateau a infecté plus ou moins, infesté plus ou moins enfin, gravement, ça je ne rentrerai pas dans cette discussion, les côtes de l'Atlantique. Bien, vous voyez que nous nous retrouvons relancés en quelque sorte dans cette interrogation sur l'homme et la nature, mais à partir, si vous voulez, d'un éclairage différent. Et je n'insisterai pas sur tout ce qui nous amène à nous interroger sur l'environnement naturel ou transformé plus ou moins par l'homme. Donc, c'est cette inversion du paradigme qui me semble quelque chose d'intéressant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand j'ai communiqué cette idée comme point de départ de ma conférence à certaines personnes, on m'a dit « Ah, mais c'est très bien, ah, mais vous avez dû être un porte-drapeau en disant ça ». Je n'ai pas du tout été un porte-drapeau. C'est une évolution qui s'est produite lentement, avec, bien entendu, des hauts et des bas, et même des périodes difficiles, quand on n'arrivait pas, bien entendu, à retrouver l'interface entre sciences de la nature et sciences de l'homme, on est allé, et moi-même j'ai pratiqué cette scission-divorce, faire soit de la géographie physique, soit de la géographie humaine. Je crois que maintenant, nous retrouvons, dans le fond, dans une certaine mesure, une certaine cohérence des deux, en tout cas des questions qui sont fondamentales et qui intéressent l'interface des deux types de disciplines. Je disais donc que l'inversion du paradigme n'est pas récente. Et alors vous me permettrez, tout en parlant de la géographie aujourd'hui, de signaler une phrase qui, pour moi, a été décisive, puisqu'elle a orienté dans le fond mes recherches, qui semble non explosive, mais qui, curieusement, ne plaît pas, en général, aux géographes, parce qu'ils l'interprètent comme une phrase qui veut vraiment réduire la géographie à la portion congrue, alors que c'était, au contraire, pour défendre le point de vue de Vidal de la Blache, ce qui n'était pas tout à fait exact non plus. Mais en fait, c'est une phrase de Lucien Febvre qui a fait un livre qui, dans le fond, répondrait un peu à notre question d'aujourd'hui, « La Terre et l'évolution humaine, qu'en dire scientifiquement ?» mais qui, curieusement, en voulant défendre la géographie française contre la géographie allemande et contre la morphologie sociale, dit des choses très inexactes souvent. Mais il y a une phrase qui me semble une phrase culte, comme on dit dans le cinéma, et que personnellement je cite chaque fois que j'ai à parler de la géographie, parce qu'elle me semble à la fois modeste et indiquer le bon sens de nos interrogations. Qui étudie l'action des conditions géographiques ou la structure des groupes sociaux court le risque des conditions géographiques, pardon, sur la structure des groupes sociaux court le risque de se perdre. Nous voulons dire d'attribuer une valeur primordiale et non seulement décisive, mais unique à ces conditions géographiques. Mais qui renverse les termes et se demande non pas même quelle est l'action des groupes sociaux sur le milieu géographique, mais bien quel trait d'un paysage donné, d'un ensemble géographique, directement saisi ou historiquement reconstitué, s'explique ou peuvent s'expliquer par l'action continue, positive ou négative d'un certain groupe ou d'une certaine forme d'organisation sociale. Celui-là, s'il est prudent, ne risque ni erreur, ni confusion, ni généralisation abusive. Alors pour moi, cette phrase est à écrire en lettres d'or. Ceci dit, c'est une phrase quand même qui limite les choses. Elle parle de paysage, et il faudrait savoir si la notion de paysage est la seule chose que l'on peut introduire comme objet, je dirais, de l'étude géographique. Et quelle est la place de l'homme dans le paysage, où on situe l'homme et quels sont ces hommes. Et d'autre part, elle parle de quels traits, comme si l'on pouvait décomposer le paysage lui-même, comme si la géographie, dans le fond, apportait des réponses très locales et très partielles et très sectorielles à un certain nombre de questions, et s'il n'y avait pas la possibilité d'essayer de mettre ensemble ces considérations, c'est-à-dire si vous voulez, d'avoir un regard plus large, que j'appellerais volontiers un regard sur le système géographique dans son ensemble, mais non pas seulement sur des parts du paysage. C'est la question, dans le fond, qui a été cruciale pendant longtemps. Alors, je n'insisterai pas sur l'évolution de la géographie vers, je dirais, non pas peut-être une science, mais des efforts de précision scientifique dans les quelques années que j'ai connues, c'est-à-dire en gros des années 1930-40 à maintenant. Il y a eu des révolutions. On a beaucoup parlé de révolutions en géographie, au point que quelquefois on a l'impression que la géographie se ressemblerait assez à une république latino-américaine du 19e siècle. Mais on a parlé de révolutions dans la mesure où la géographie a cherché des modèles, des références scientifiques, pas seulement en elle-même, mais autour d'elle. Elle a cherché à se renforcer d'abord techniquement, c'est-à-dire à introduire, bien entendu, la possibilité du calcul, non plus seulement de la statistique descriptive, mais de l'étude des corrélations qui permet d'entrevoir des schémas d'explication. Ça, elle l'a pris dans la recherche opérationnelle, comme toutes les autres sciences humaines. Elle l'a pris aussi les essais déjà d'autres disciplines pour formaliser un petit peu quantitativement certains phénomènes, comme par exemple les choix résidentiels, comme le développement de telle ou telle région, les taux de croissance et bien d'autres choses, en essayant d'expliquer, dans le fond, par des séries de facteurs, un phénomène qui est isolé et ciblé, les facteurs explicatifs et le facteur à expliquer se trouvant mis en série. Voilà. Alors, la géographie s'est servie, et s'est servie heureusement de ces choses-là, sans que cela aboutisse peut-être à des résultats autres que ceux que l'on pouvait, dans une certaine mesure, prévoir. Autrement dit, cela apportait plutôt des réponses du type oui, le calcul permet de dire que telle évolution n'est pas incompatible avec les données, beaucoup plus qu'à nous dire les choses se passent de cette manière-là. On a pratiqué ce qu'on appelle l'écologie factorielle, qui consistait à projeter des quantités de qualifiants les personnes qui habitent telle ou telle partie du territoire et voir comment ces caractéristiques statistiques s'agrégeaient ou ne s'agrégeaient pas, s'opposaient de telle manière que l'on passe dans le fond de cette définition par des quantités des espaces à une qualification finalement sociale de ces espaces, à une relation entre les différentes quantités qui apparaissaient. C'est ce qu'on avait appelé l'écologie factorielle, puisqu'on tirait de ces variables, dans le fond multiple, une série de facteurs dits explicatifs. Mais là, je renverrai simplement à la phrase de mon vieil ami disparu, Pierre Gréco, à savoir que l'analyse factorielle peut exercer un tri magnifique et très puissant. Elle n'est pas directement explicative. Elle est pré-explicative et il s'agit de trouver ensuite les concepts qui permettent de faire que l'on explique pour quelles raisons les phénomènes se disposent ainsi. Bon, je ne parle pas de tout cela et d'ailleurs je crois que la semaine prochaine, vous entendrez des explications très précises sur certaines démarches des sciences humaines et en particulier des sciences humaines qui s'intéressent à l'homme et au territoire, que ce soit la géographie, que ce soit la géographie spatiale et l'économie spatiale, et qui vous fourniront dans ce domaine-là, je crois, des objets, des raisons de raisonner et peut-être d'être plus optimiste que je le suis moi-même. Je vous dis que moi aussi j'avais un peu pratiqué l'écologie factorielle et des trucs comme ça, mais enfin bon. Je répète que je prends toujours un peu de distance. En revanche, il me semble qu'il y a eu une révolution peut-être pas une révolution, mais une prise de conscience progressive, qui a été, dans le fond, de ne plus considérer d'une manière un peu fixiste le rapport entre le contexte naturel et les hommes, et leur manière, si vous voulez, d'aménager la Terre, mais de considérer que c'était un problème qui se posait et qui évoluait dans l'histoire. Alors, je ne parle pas de l'histoire en tant que discipline, je répète, parce qu'il ne s'agit pas de dire « ça, c'est le territoire de l'historien et ça, c'est le territoire du géographe ». Je crois que cela n'a aucun intérêt de ce point de vue, mais simplement la dimension historique, c'est-à-dire de juger dans quelle mesure les phénomènes que nous visons en géographie sont des phénomènes qui changent dans l'histoire parce que finalement les conditions historiques changent, que les groupes sociaux qui interviennent changent en eux-mêmes ou changent d'objectifs et de principes d'organisation. On a pris pour cela, là aussi je prends l'exemple de la France, mais ça se trouverait dans d'autres cas et dans d'autres pays, dans d'autres géographies, on a pris l'exemple des paysages agraires et des systèmes agraires, en bien montrant que le paysage agraire, d'ailleurs, qui est quelque chose de visible, une organisation visible, recouvre des types d'organisation et de conception, si vous voulez, du travail de la terre et de la division de la terre, qui ne sont pas forcément visibles. C'est tout le problème, si vous voulez, le célèbre problème des open fields et des bocages, des champs découverts à parcelles et au contraire à parcelles fines et lanières et au contraire des champs bocagers beaucoup plus proches de formes géométriques du carré ou du rectangle. Voilà. Alors ça, c'est une grande division, parce que c'était des divisions qui ne sont pas seulement celles de l'espace français, mais qui sont celles aussi, dans le fond, de l'Europe. Et on s'est posé la question, on s'est dit finalement, quelle est l'origine de cette alternance que l'on observe entre deux types de paysages, le champ ouvert et le bocage. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs principes d'explication. Et dans le fond, c'est l'évolution de ces principes d'explication. Je le dis, je le répète, ce n'est pas, si vous voulez, faire simplement de l'histoire de la géographie, mais c'est se placer dans le point de vue de la géographie actuelle, en fin de compte. C'est-à-dire que on en vient de plus en plus à introduire de l'histoire, et de l'histoire précise et relativement récente, dans l'explication de contrastes qui étaient presque considérés comme naturels à l'origine. Pour les contrastes des paysages ruraux, on a cherché cela d'abord dans quelque chose qui était sûr, dans la très longue durée, si vous voulez, c'était des contrastes de civilisation agraire qui se prolongeaient dans l'histoire et donc même après les révolutions qui ont commencé par l'enclosure en Angleterre, par l'individualisme dans toute l'Europe au XVIIIe siècle, par la Révolution française, tout cela ont modifié, bien entendu, les choses. Mais l'idée, c'est que c'était des phénomènes de très longue durée et dans le fond des phénomènes, j'allais dire, de culture d'ethnologie, puisqu'on ne voulait plus croire déjà à un simple déterminisme physique. Et ensuite, on s'est dit, cela dépend non pas d'attitudes culturelles de très longue durée, mais cela dépend des grands changements qui sont intervenus dans la manière d'organiser l'économie agricole. C'est-à-dire quand on est passé de l'économie domaniale à l'économie seigneuriale qui gagne surtout, qui tire surtout des ressources, des têtes de personnes réunies dans les terres dont dispose le seigneur, et enfin à une économie de profit telle qu'elle commence à s'installer à la fin du Moyen-Âge, etc., où de plus en plus le propriétaire de la terre, qu'il soit seigneur ou de plus en plus bourgeois, cherche à tirer un profit de la vente des produits et non pas du nombre de gens qui travaillent sur ces terres. Et finalement, l'un des hommes qui a commencé par se référer aux traditions ethniques et qui ensuite a fait travailler des élèves dans ce sens de précision historique, a conclu que l'on en venait de plus en plus a considéré que les contrastes de paysages ruraux devaient être lus, je dirais, dans les périodes les plus proches de l'histoire, quitte à remonter ensuite pour voir s'il n'y avait pas des causes plus anciennes ou des manifestations plus anciennes, en particulier dans les aspects que l'on n'était pas arrivé à expliquer par le plus proche. Donc, vous voyez, une notion fondamentale de la géographie, d'ailleurs, le proche et le lointain, qui, un peu comme Racine, était introduite dans cette démarche. Je crois que c'est très important, parce que ça commande la situation de cette grande inversion, si vous voulez, du paradigme, disant le finalement, ce qui est naturel ou ce qui est plus durable n'est peut-être pas explicable par une cause naturelle ou plus durable. Il faut d'abord chercher dans les événements historiques le moment, finalement, où ces structures ont été mises en place. Et on a utilisé d'ailleurs, cet homme d'ailleurs qui a fait cette remarque très profonde méthodologique et qui a fait des travaux, c'est Roger Dillon, qui était professeur au Collège de France, mais qui n'en a pas acquis pour autant une grande gloire médiatique et qui me semble trop souvent oublié de la géographie actuelle. Mais enfin, il y en a bien d'autres autour de lui qui sont allés dans le même sens et d'ailleurs dans un sens qui était corroboré par les travaux historiques. On a donc essayé peut-être de trouver des méthodes plus rigoureuses pour marquer l'articulation entre ces phénomènes plus ou moins longs, ces phénomènes plus ou moins naturels, et d'autre part les techniques, si vous voulez, pour employer un mot très général, c'est-à-dire elles peuvent être aussi bien des techniques de travail, de production, que des techniques d'organisation sociale de l'homme sur la Terre. Et en particulier, on a introduit assez nettement l'analyse dite systémique dans la géographie, c'est-à-dire que la géographie, ce n'était pas seulement des causes et des effets, version un peu simpliste de l'explication, mais c'était des causes qui déclenchaient des effets, qui eux-mêmes devenaient des causes, c'est-à-dire qu'il y avait des effets de rétroaction qui apparaissaient dans les facteurs. Et c'est comme ça qu'on a introduit d'ailleurs, d'une part, des études de paysages naturels, mais non pas uniquement sous l'aspect relief ou sous l'aspect botanique, mais en essayant d'intégrer toutes ces manières systémiques de voir le paysage dans son ensemble. Et c'est ainsi que l'on a intégrer aussi l'homme comme facteur d'explication de l'évolution, ce fameux facteur anthropique qui vient d'ailleurs souvent bouleverser dans une certaine mesure les choses. Donc les bases scientifiques étaient relativement données. Mais il me semble qu'au-delà de ces nouvelles méthodes d'approche, la géographie se trouve placée devant, d'une part, une reconsidération de ces objets et, d'autre part, une série de questions qui seraient volontiers à mettre parmi les questions que se poserait la société et, curieusement, la géographie, science modeste, mais science d'interface, serait peut-être pas mal placé pour apporter sa réflexion, je ne dis pas des explications, mais des réflexions dans ces domaines. Alors d'abord, interrogation sur les objets. On dit que le but de la géographie, c'est d'expliquer l'espace. Alors là, je suis un vieux philosophe, je ne suis pas philosophe, mais ma philosophie s'est formée au contact de lecture d'Alain, qui disent, vous savez, l'espace, c'est sans dimension, c'est sans grandeur, c'est quelque chose de vide. Alors, étudier un objet vide, ça n'est pas très drôle. Et d'autre part, les géographes savent très bien, dès que l'on parle d'espace, par exemple, en économie, qu'ils disent, mais attention, il y a des frottements parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a des plaines, parce qu'il y a un relief, parce qu'il y a des sociétés différentes, parce qu'il y a des océans à traverser, etc. Donc, je crois que le mot espace au singulier n'est certainement pas l'objet de la géographie. Mais espace au pluriel, c'est déjà mieux, dans la mesure où finalement la géographie est un peu l'explication ou l'explicitation des différences que nous notons entre les espaces, dans leurs aspects, c'est-à-dire qui peuvent être des aspects physiques ou des aspects sociaux ou moraux, qui peuvent être des densités de population, qui peuvent être des formes d'activité, qui peuvent être des formes d'habitat. Autrement dit, l'espace n'existe pas comme intérêt en lui-même, mais il existe parce qu'il témoigne de la distribution, de la répartition, de la mobilité des hommes, parce qu'il témoigne d'un certain nombre de choses. Je dis bien volontiers le mot « chose », parce que je tiens à cet aspect matériel, finalement, de l'objet de la géographie, qui sont des formes d'habitat, qui sont des aménagements. Et je crois que le mot « aménagement », si on ne le prend pas au sens uniquement planificateur du terme, est un grand mot, finalement, pour rendre compte des intérêts de la géographie. Autrement dit, c'est tous ces éléments qui sont l'objet de la géographie et qui, pendant longtemps, se sont posés en relation les uns avec les autres, et je dirais en relation relativement facile à déterminer, parce que nous étions dans un monde de distance et de proximité, j'allais dire kilométrique, qui se mesurait. Et parce que nous étions dans un monde où le déplacement d'un point à un autre, d'un espace différencié à un autre, exigeait aussi du temps. Et où, par conséquent, on arrivait à juger de cette différenciation et à même à faire de cette différenciation le support, en fin de compte, d'une analyse. Et il y a un mot d'un géographe relativement classique, mais beaucoup plus aventuré qu'on ne le prétend, qui s'appelait De Mangeon, et qui disait finalement, il n'y a pas de société sans support territorial. Alors j'ajouterai, ce n'est pas seulement un support, ce sont des manifestations, des choses qui apparaissent territorialement, et ce n'est pas seulement des choses, c'est une relation entre les hommes et le territoire. Et dans le fond, le sens même de l'espace en géographie, ça serait plutôt cette relation entre les hommes et le territoire. Mais alors apparaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une question plus ample, c'est que cette relation s'établit dans le temps. C'est-à-dire que les systèmes organisés, même ces systèmes agraires dont j'ai parlé tout à l'heure, ben on s'est aperçu que tous les éléments qui entraient dans un système bien défini n'étaient pas contemporains. L'entrée en scène n'avait pas eu lieu en même temps, c'est-à-dire que ces combinaisons s'étaient formées au cours même du temps. On s'aperçoit aussi qu'une série de nos objets géographiques, l'habitat par exemple, et les activités économiques, ben, elles n'ont pas les mêmes temporalités. Je dis souvent que nos villes n'ont pas dans toute leur structure, mais au moins dans leur site initial, dans leur position initiale, et je dirais dans une petite affaire de poids initial qui se prolonge ensuite dans l'histoire, nos villes vont au-delà, je dirais, des modes de production et des étapes techniques, qu'il y a une sorte de temporalité différente. Et ainsi, dans des régimes agraires, et ainsi, je dirais, dans toute une série d'éléments qui laissent soit simplement des traces, soit simplement des trames du passé. Alors je sais bien que maintenant, et en grande partie parce que nous regardons ce passé comme un patrimoine, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on considère que les parcellaires doivent être très considérés, que les parcellaires, tout ce qui est... au sol indique une inscription territoriale ancienne, doivent être sauvegardées, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais il faut se demander aussi si c'est le parcellaire, dans le fond, qui résiste, qui est inerte, qui ne veut pas bouger, si c'est un acteur, finalement. Et on s'aperçoit que, dans le fond, les parcellaires ne bougent pas quand il y a des acteurs sociaux qui sont intéressés à ce qu'ils ne bougent pas, et qu'inversement, ils peuvent bouger très fortement, voire par exemple l'osmanisation, qui a été l'une des périodes, dans le fond, dans lesquelles j'ai placé ma réflexion géographique, eh bien, le fait bouger le parcellaire très fortement. Donc, on en vient finalement, à travers ces temporalités différentes, à considérer qu'il y a derrière des acteurs sociaux, et que finalement, ce qu'il faut retrouver à travers le temps et des temps souvent différents, des périodisations, je dirais, différentes, des longueurs différentes selon les objets, il faut retrouver les processus sociaux qui les mettent en place. Et je crois que là, c'est le gros problème de notre géographie aujourd'hui, de même que c'est le problème qui se pose, par exemple, en urbanisme. Actuellement, on ne conçoit plus l'urbanisme comme la projection d'une idée géniale dans l'espace et qui sera d'une projection idéale, c'est-à-dire que Zeus sorte au tarmé, plutôt Athéna sorte au tarmé de la tête de Zeus, c'est-à-dire que tout est fait et qu'il suffit de projeter dans l'espace. De même, on ne peut pas tomber dans une explication marxiste, d'un marxisme simpliste, qui dit la société est constituée, elle se projette dans l'espace. En réalité, la société n'est pas constituée une fois pour toutes et pour un certain temps, la société se constitue sans cesse. Et c'est en se constituant qu'elle fabrique son espace, et son espace l'aide à se constituer. Il y a par conséquent un échange permanent, un processus permanent. Et actuellement, je reviens à l'urbanisme, quand on parle d'urbanisme, eh bien on parle finalement de quelque chose qui est une sorte de négociation, qui est une sorte de compromis entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, la manière, si vous voulez, de réutiliser une partie de l'espace ou une partie des gains. Nous sommes dans des sociétés dites non jetables maintenant, tout au moins qui se veulent non jetables, qui existent déjà. Le désir de ne pas rompre, si vous voulez, avec une certaine continuité, mais en même temps de faire du nouveau. C'est-à-dire que nous sommes dans cette situation qui, à mon avis, est une situation qui a déjà été exposée devant vous et dans la première séance sur la logique du vivant, c'est-à-dire que nous sommes balancés entre ce que l'on pourrait appeler mémoire et ce que l'on peut appeler, au contraire, programme, projet surtout. Et vous savez que dans le monde de l'urbanisme, maintenant, l'idée n'est plus à la projection, je dirais, de quelque chose d'établi et de partiel, je dirais, mais plutôt à une notion de projet qui fixe des ambitions, qui fixe des finalités et qui ensuite décompose cela en programme. Je crois que nous en venons finalement à cette idée programmatique qui me semble dans le fond assez bien, celle aussi, mutatis mutandis, bien entendu, de certains penseurs de la biologie, de certains chercheurs de la biologie. C'est pour cela qu'il me semble que l'analogie, si vous voulez, biologique, qui souvent a été stérilisante pour la géographie, et qui a été une langue, dans le fond, que l'on a employée dans les façons humaines d'organiser l'espace, qui était un peu limite, qui relevait vraiment de l'analogie ou de la métaphore. Les artères, toute cette pathologie de la ville qui était directement inspirée des mots de la pathologie humaine. Tout cela présentait des risques. Mais que maintenant, la réflexion sur la mémoire, parce que, et sur, d'autre part sur le projet, me semble quelque chose dans le fond d'important, puisque la mémoire assure dans le fond la reproduction, et que le projet assure, dans une certaine mesure, la production, puisque nous ne sommes pas dans un monde uniquement de reproduction. Enfin, là, je me distingue, bien entendu, de certaines thèses sociologiques. Mais je ne crois pas qu'on puisse mettre de la géographie uniquement du côté de la reproduction. Et je crois que c'est ce qu'il faut analyser aujourd'hui. Alors, la géographie n'est pas plus forte, je dirais, qu'une autre science, mais elle peut réfléchir là-dessus. Elle peut réfléchir sur, d'une part, la mémoire. La mémoire, c'est, j'allais dire, une mémoire de disque, une mémoire inscrite. Ce sont des trames, ce sont des positions, ce sont quelquefois des structures urbaines ou des structures rurales, ce sont des cheminements, ce sont des itinéraires. Voilà ce qui fait mémoire. Et mémoire, dans le fond, matérielle. Il y a la mémoire aussi des hommes, et ça c'est très important parce que tous ces phénomènes-là sont avant tout des phénomènes de représentation. C'est l'homme qui se représente, c'est acquis, et qui peut investir soit dans ces phénomènes mémoriaux, plus ou moins reconstitués d'ailleurs, plus ou moins réhabilités, et d'autre part, qui peut formuler en grande partie le projet qui est une représentation aussi. Que l'on rêve pas, que l'on dresse des utopies ou que l'on ne dresse pas des utopies, tout ce qu'il y a dans le projet, c'est quand même un signe de liberté. Et bien, finalement, la géographie se trouve placée dans cette position, comme pas mal de sciences, je crois. Alors, l'occasion, c'est de, à partir, si vous voulez, de cette réflexion que je n'ose pas dire épistémologique, parce que je n'aime pas trop ces mots dangereux, de voir dans le fond comment la géographie peut répondre à un certain nombre de questions qui sont les questions actuelles, j'allais dire. On appelle ça souvent la demande sociale, ce qui n'a pas beaucoup de sens peut-être, mais des questions vraiment qui priment la vie des hommes et pas seulement leur réflexion. Mais la première question, c'est le territoire. Alors là, soyons clairs, est-ce que la réflexion géographique est complètement désorganisée par le fait que nous allons vers, j'allais dire, une suppression des vieilles contraintes de la géographie, la distance et le temps de déplacement? Est-ce qu'autrement dit, le temps réel, le net, le branchement vers tous les azimuts, dans le fond, ne détruit pas cette vieille réalité à laquelle la géographie était obligée de se conformer, même si elle était, par ses représentations, capable parfois de les dépasser, cette vieille réalité de du proche et du lointain, qui, à mon avis, était en grande partie sa raison d'être. Mais ça n'est pas un problème scientifique, vous le voyez. C'est le problème, dans le fond, de savoir, dans nos sociétés, si évidemment nous réfléchissons à la marge, si nous réfléchissons sur des tendances poussées à l'extrême, il faut bien dire que la vie, fort heureusement, ne va jamais jusque-là, si nous faisons des modèles un peu simplifiés, ou tout au moins des scénarios simplifiés. Dans le fond, que devient le territoire? Et est-ce que nous sommes dans un monde où la notion de territoire est complètement laminée, je dirais, par la notion de réseau? Autrement dit, est-ce que c'est le branchement et non pas le fait d'appartenir ou de vivre dans tel ou tel territoire qui sera principal? Alors, c'est difficile d'y répondre, parce que d'abord, il n'y a pas une opposition absolue entre territoire et réseau. Les territoires sont desservis par les réseaux, les réseaux peuvent constituer des territoires, etc. Je ne crois pas qu'il faille opposer les choses. Mais il y a quand même, si vous voulez, deux logiques qui s'opposent, et surtout qui s'opposent à partir du moment où l'on intervient dans le sens du net, présent au monde dans tous ces éléments, et du temps réel. Alors, dans quelle mesure nous sommes encore des êtres territoriaux? Mais d'abord, il faut peut-être se demander s'il ne faut pas réfléchir à la notion de territoire. Si nous n'avons pas une notion, si vous voulez, piétonnière, j'allais dire, du territoire. Si nous ne sommes pas encore entraînés à penser le territoire en pure continuité, contiguïté, alors que nous savons bien que l'homme est mobile et qu'il est de plus en plus mobile, et que par conséquent, l'un de ses désirs, finalement, n'est peut-être pas de ne plus être territorialisé, mais c'est de cultiver plusieurs territoires. Je me demande s'il n'y a pas une évolution vers une multiterritorialité, dont les éléments d'ailleurs ne sont pas des éléments d'aujourd'hui. Ça a commencé avec les vacances, les congés payés, avec, avant vraisemblablement, des territoires qui étaient déjà constitués et non continus, qui étaient les territoires habitués, en quelque sorte, d'une population paysanne qui vivait dans un village et de la ville, ou même de la grande ville dans laquelle elle avait l'habitude d'envoyer ses émigrants. Il y a déjà des territoires qui existaient. Et il ne faut pas oublier que l'un de nos très grands ethnologues, vous voyez, je cite souvent des gens du passé, parce qu'il faut établir la réflexion d'aujourd'hui doit sans cesse se reporter sur une réflexion qui n'est pas bloquée, je dirais, dans notre temps, qui est Marcel Mauss, qui avait décrit comme territoire les espaces sur lesquels passaient, enfin, de saison en saison, des nomades. Il y a une organisation territoriale qui est liée au nomadisme, avec ses points de référence, ses trajets, ses itinéraires, et par conséquent, quelque chose qui n'est pas simplement un déplacement. Le déplacement, c'est entre des étapes. Et aussi bien dans nos vies que dans l'espace actuel que nous voyons dans nos villes, nous voyons très bien qu'il y a énormément d'itinéraires, qu'il y a énormément de trajectoires, et que les trajectoires de vie sont aussi des trajectoires de ville, et que les trajectoires de, ne sont pas, si vous voulez, pour autant négation du territoire, mais plutôt, je dirais, autre utilisation ou utilisation plus complète et certainement plus mondiale des territoires. Alors, je ne parle pas évidemment de tout ce qui nous conduit à cela, mais je dirais que la réflexion sur le territoire est une réflexion qui se croise avec deux autres phénomènes qui sont liés aux mêmes inventions ethniques, aux mêmes innovations techniques, pardon, mais qui ne sont pas... ne sont pas réductibles, si vous voulez. C'est d'une part la mondialisation de l'économie, mais pas seulement de l'économie, de la culture, de la société, etc. Et d'autre part, cette tendance, si vous voulez, qui est très forte, vers l'individualisation de la vie sociale. Alors, est-ce que le territoire ne disparaît pas, finalement, entre ces deux tendances majeures? Alors, je ne le crois pas, bien entendu, c'est pas... Il y a des scénarios catastrophes. En particulier, il y a quelqu'un que j'aime bien, Virilio, qui est capable de décrire énormément, avec énormément d'imagination, mais en même temps d'horreur, le fait que, dans le fond, il y a d'un côté les individus, il y a d'un côté ce monde, ce planétarisme que lui n'appelle pas village, planétaire, parce que ça serait déjà une organisation sociale dans une certaine mesure, et que somme toute, tout le monde peut se faire la guerre à tout le monde, qu'on se reconstituera en tribu dans la mesure où nous avons un intérêt commun principal et pas le reste, et que l'altérité finalement, qui était liée à la notion de territoire, disparaît en grande partie. Et vous voyez que cette réflexion sur le territoire se prolonge en réflexion, j'allais dire, politico-administrative, eh bien, nous y sommes en plein maintenant. Par exemple, le problème de la régulation. Quels sont les territoires de la régulation? Est-ce que dans une économie mondialisée, quand l'État-nation est dépassé, est-ce encore des territoires qui peuvent se constituer de ce côté-là et constituer des instances de régulation? Est-ce qu'on peut constituer des régulations à l'échelle de la planète, etc. Vous voyez que c'est une question qui traîne dans les journaux quotidiennement. Deuxième question qui me semble importante aussi dans ce sens, c'est la question des découpages. Ben, vous savez que la France, par exemple, réfléchit à cette sorte de décalage qu'il y a entre les réalités de la géographie, la métropolisation autour de quelques grandes villes, l'internationalisation des relations et des entreprises, enfin, etc. Tous ces phénomènes de changement. Et d'autre part, la nécessité, si vous voulez, de considérer que l'on habite quelque part un lieu. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va créer découpage, je dirais, politico-administratif. Quel sera le lieu, finalement, du projet? Quelles seront les limites du projet? Est-ce que le projet peut s'enfermer dans des périmètres? La grosse question d'aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'il y a encore des périmètres qui ont un sens? Et quels sont les périmètres qui peuvent avoir un sens? Est-ce que les périmètres n'ont pas un sens uniquement en fonction d'un projet, par exemple? Est-ce qu'ils ont un sens bon à tout et peut-être bon à rien? Et vous savez que l'une des discussions françaises, par exemple, je ramène cela au quotidien, vous voyez, à la une, souvent, c'est de savoir si on va conserver des départements, si on va recréer des régions, si on va faire des régions plus grandes, si on va faire des pays, si on va faire des agglomérations, si ces agglomérations correspondront à la réalité géographique ou buteront sur des pays, alors qu'en réalité, le phénomène d'intégration, si vous voulez, des échanges plus vastes et déjà opérés, enfin, vous voyez toutes ces questions. Si l'Île-de-France a un sens, alors que l'on sait que maintenant, les phénomènes phénomène de l'Île-de-France déborde déjà largement au-delà des départements de l'Île-de-France. Vous voyez, toutes ces questions, qui sont des questions, je dirais, de société courante, me semblent quand même reposer sur cette réflexion fondamentale sur le territoire, le périmètre, qui longtemps ont été des sortes de masses de granit de notre réflexion. Et je crois que le territoire, ça serait dangereux de l'abandonner. Parce que laisser le territoire, comme on l'a dit souvent, à ceux qui ne seraient pas intégrés dans cette société d'échange plus généralisée, faire du territoire le lieu des populations captives serait un danger encore plus énorme. Alors vous voyez que la géographie ne nous éloigne pas des questions du jour, sauf que ces questions se posent maintenant à l'échelle du monde. C'est-à-dire que vous savez que nos villes ont intériorisé quand même quelques problèmes, par exemple du tiers-monde, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, dans le fond, sous le protectionnisme béat que représentait, en fin de compte, l'espace et le temps jusqu'à un certain moment. De même, nous sommes en plein d'interrogations, et je n'insisterai pas là-dessus, sur la question du patrimoine. Ce rapport entre mémoire et projet, c'est la question du patrimoine. Et dans projet, bien entendu, le patrimoine n'est pas absent. C'est pas le patrimoine, c'est le passé, et le projet, c'est l'avenir. Mais le projet, c'est le patrimoine que nous cédons. Je crois qu'on a tendance à considérer que le patrimoine, c'est quelque chose dont nous héritons. Mais en réalité, le patrimoine, c'est plutôt quelque chose que nous cédons. Et finalement, quel bon père de famille n'essaierait pas d'augmenter le patrimoine familial avant de le céder à ses enfants ? Donc, le véritable problème du patrimoine, c'est celui-ci, qui ramène d'ailleurs à la notion que je n'aime pas personnellement de développement durable, parce que je trouve que le terme durable ne veut rien dire, mais tout développement est durable dans un certain sens, mais combien de temps ? Alors, ce qui veut dire, dans le fond, plutôt le non-jetable, le non-gâchis, et la non-destruction, finalement, de ce qui est nécessaire pour l'homme. Alors, j'en viens à la dernière dimension, qui est, dans le fond, le recoupement entre la géographie et la réflexion sur les risques. Les risques naturels, j'en ai parlé. Les risques naturels, même quand ils sont exceptionnels, auraient fait certainement moins de dégâts visibles, sensibles, dans la vie quotidienne, s'il n'y avait pas notre civilisation sophistiquée qui en est touchée dans beaucoup de ces éléments. Il y a également, comme je l'ai dit, la nature pervertie. Et là, c'est un très gros problème, c'est-à-dire, c'est pas seulement un problème, si vous voulez, on conserve le paysage, ah, Dieu sait, on a fait passer un chemin de fer par là, c'est désastreux, ce paysage a perdu tout son charme, etc. Bon. Mais pensez que les éléments même, ce qui est quelque chose de supérieur à la géographie, de commun, si vous voulez, à tout l'univers, et même l'entourage, si vous voulez, de la Terre, la fameuse couche d'ozone, etc. Tout cela, ce sont des éléments mis en question par les risques même de notre civilisation. La mondialisation est un phénomène qui n'est pas seulement un phénomène économique, social, mais qui est un phénomène de risque et de risque par rapport à la nature. Par exemple, les changements climatiques, le réchauffement, par exemple aussi, la rareté de ces éléments qui nous semblaient donnés gratuitement et qui deviennent marchandisés, organisés et qui vont devenir des biens rares peut-être, l'eau maintenant, puisque l'eau est fabriquée, l'eau est travaillée socialement, elle peut procurer des profits intéressants, et peut-être l'air, un jour ou l'autre. En tout cas déjà, économiquement, une certaine défense de l'air et établi. Alors bientôt, on vendra peut-être des bouteilles d'air pur, pour satisfaire nos besoins. Alors vous voyez, nous sommes dans une société qui est de plus en plus vulnérable, parce que c'est une société de plus en plus sophistiquée. Et je crois que le rapport avec les mécanismes naturels est dans une certaine mesure reconstruit par ce caractère vulnérable qui me semble enfin l'un des derniers éléments de cette réponse, enfin, ou tout au moins de cette réflexion que la géographie peut apporter aujourd'hui. Alors, vous voyez, ce n'est pas une réponse, c'est une science qui va vous apporter la vérité, en plus vous dire ce que sera le monde demain, mais c'est une science qui peut, je dirais, par ses propres faiblesses, ses propres interrogations internes, vous amener à réfléchir, et je crois que c'est important. Alors, la géographie, je voudrais faire une allusion à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un vieux camarade et célèbre, Serre, Michel Serre, qui disait « l'esquisse de géographie et la brûlante histoire », et qui préférait bien entendu l'esquisse de géographie. Ben, je suis bien obligé de dire que la géographie n'est peut-être pas si esquisse que cela, qu'elle commence à connaître pas mal de brûlures, en fin de compte, et en particulier des brûlures qui viennent de l'histoire, qui viennent de la société. Mais je me demande si, dans le fond, dans cette sorte de temps amorti, et j'emploie volontiers le terme amorti à tous ses sens, y compris financier, de temps amorti qui apparaît dans les paysages géographiques, et j'entends paysage au sens très large du terme, tout en fait partie, ce n'est pas seulement visuel, si dans le fond, il n'y a pas quand même, dans la géographie, une saisie de l'instant. Et vous savez, dans la philosophie, instant et éternité se rapprochent, je vous renvoie à Rupnel et à Bachelard. S'il n'y a pas quand même, c'est vrai, le moyen de réfléchir autrement qu'au jour le jour et à la une des journaux.
Alors, question. Attendez, voilà un micro qui vous arrive.
Attendez, je n'ai pas entendu. Non.
Un micro.
Ah ben, il y a un micro simplement. Là, ouais. Attendez, il faut que je change de lunettes pour voir. Là.
Allez-y, monsieur. Si, si, allez-y. Comment se fait-il ? Ah. Attendez, commençons avec ici, puis on va.
Oui. Bon, je vais commencer. Donc.
Bon, commençons la première. Allez-y.
Oui, moi je me demande pourquoi le savoir sur le constitutif de la géographie, en tout cas sur lequel travaillent nombre de géographes, est relativement encore inaccessible. C'est en tout cas mon impression, elle peut être subjective, mais ce qui est. S'il n'y a pas un enjeu de pouvoir là derrière. Voilà. Et puis la deuxième réflexion que j'aurais, c'est que l'espace, de toute façon, est une denrée limitée. Donc, fatalement, ça, c'est un incontournable, je dirais, de l'homme et de l'humanité. Voilà.
Alors, je réponds immédiatement.
Oui, tout de suite, oui.
Bien. Alors, votre première question, vous avez l'impression que le géographe n'a pas accès, dans le fond, à toutes les sources d'informations qui seraient nécessaires à son étude ?
Non.
Le citoyen, bon. Mais le géographe est un pauvre citoyen, très souvent, vous savez. Il ne bénéficie pas forcément d'entrées particulières. Ce n'est pas entièrement faux. Ça n'est pas totalement lié à... au statut du géographe et donc du citoyen, puisque le citoyen peut très bien avoir les mêmes renseignements que le géographe. Dans les archives, par exemple, nous voyons très souvent le citoyen intéressé par la généalogie venir s'asseoir à côté du géographe qui pioche dans quelque archive un renseignement qui peut lui être utile. Ce n'est pas ça. Je crois que nous sommes dans des systèmes techniques et que les systèmes techniques d'information sont souvent... aussi ou presque aussi fermé aux géographes et à plus forte raison, bien entendu, aux citoyens. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les recensements du 19e siècle, qui n'étaient pas des recensements merveilleux, mais qui donnaient au domicile la résidence de chaque habitant, avec quelques renseignements sur cet habitant, le lieu où il était né, sa date de naissance, enfin, etc., etc. Son métier. Et c'était pas drôle. C'était encore une époque où on ne faisait pas des photocopies, à plus forte raison de microfilms, où on copiait ça, bêtement. Et donc, bêtement, je copiais des choses que je mettais plus ou moins en statistique après, ou que je regroupais tout au moins après. Et pendant que je copiais, j'avais une sorte de vision biographique, alors qui était peut-être fausse, peu importe, mais enfin d'imaginaire biographique qui se constituait à chacune de ces familles, et je dirais plus globalement ensuite. Autrement dit, le contact avec le document le plus proche de la réalité, le document qui était le résultat de l'enquête même du recensement, donnait déjà un sens plus libre, dans le fond, et plus direct de cette réalité, avec toutes les limites que cela représentait. Actuellement, nous passons à travers des grilles de lecture qui sont déjà faites. C'est l'INSEE qui nous délivre dans des découpages qu'elle fait. Je ne critique pas l'INSEE en tant que tel. Mais c'est ça le système technique. Et à partir de ce moment-là, il y a des informations qui ne peuvent plus être données. Il y a des choses qui ne peuvent plus être comprises et vous n'avez plus le contact entre, dans le fond, la biographie individuelle et le global qui se forme, le territoire, j'allais dire, presque, qui se forme à partir de cette lecture. Et ça, je crois que c'est un très gros élément de difficulté. À mon avis, par exemple, le mieux pour savoir comment évolue une ville, puisque c'est quand même là le lieu de mes recherches, ça serait de faire les agences immobilières. C'est-à-dire que là, et le citoyen aussi peut faire l'agence immobilière, il peut se déclarer candidat à un appartement, et voir exactement comment les choses évoluent. D'autant plus que là, on voit comment les choses évoluent à la marge, je dirais. C'est toujours les bulles immobilières dans un sens, c'est-à-dire ça accélère ce qui va se passer, ça va même très haut, et après ça se casse le nez. Et je crois qu'on comprend des tendances, non pas par leurs mouvements réguliers et moyens, mais précisément quand on sort, je dirais, de cette sorte moyenne. Et alors, le pouvoir, c'est l'INSEE, mais l'INSEE, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que les organismes veulent aussi contrôler l'information qu'ils donnent et la traiter. Je me souviens avoir eu des discussions il y a 50 ans avec des responsables de l'INSEE qui me disaient « Ah ben oui, c'est nous qui faisons tout le travail et après, c'est vous qui en tirez profit pour en tirer des interprétations. » Alors bon, il y a ça aussi. Il y a ce pouvoir de toute une série d'organismes et je suis persuadé qu'entre l'habitant et la connaissance de son milieu, et en particulier ce qui devient maintenant une demande, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais tout le monde le sent, il y a une demande de compensation par rapport à la mondialisation, etc., qui est une demande de connaissance et d'action, même sur le territoire le plus proche. Bon, ça existe et c'est très important. Eh bien, je me demande si ce n'est pas aussi tous ces systèmes, beaucoup plus qu'un pouvoir organisé qui voudrait qu'on ne sache pas, qui, en fin de compte, est à l'origine de nos difficultés. Mais je crois que c'est une très grande difficulté. Moi, j'ai l'impression de moins comprendre mon siècle parce que je n'ai plus les éléments directs que le 19e siècle que j'ai lu sur archive. Mais enfin, qui était encore proche, dans le fond, par la poussière du moment où c'était constitué. Alors voilà ma réponse à la première question. Deuxième question, espace limité. Oui, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. C'est vrai que la Terre, un jour, et en fonction du développement démographique, ben, elle risque d'être surpeuplée. Mais le surpeuplement est tout relatif et tout local maintenant. Et je ne crois pas qu'il faille entrer dans une perspective. Vous savez, il y a encore des espaces vides. Enfin, en France même, on en est à se poser le problème, justement, de la revitalisation d'espaces abandonnés. Alors, je sais bien que nos pays industriels, mais il ne faut pas aussi oublier que dans les pays du tiers-monde, et sans que pour cela il y ait eu des politiques aussi drastiques, par exemple, qu'en Chine, dans les pays à forte natalité, les mouvements, d'ailleurs, sont moins actifs qu'on ne le pensait. Que, par exemple, ces explosions démographiques de Mexico ou du Caire, telles qu'on les prévoyait il y a 20 ans pour l'an 2000, ne se sont pas produites au même rythme. Hein, c'est quand même en soi inquiétant, mais en fait, ce n'est pas le même rythme. Alors, ne parlons pas de limitation de l'espace. Je crois que c'est vrai que l'espace est une denrée relativement rare. Mais en fait, si vous voulez, ce n'est pas un espace en soi. Alors, il y a eu les inventions, bien entendu, les inventions imaginaires, mais qui ne sont pas inutiles. Aller habiter sous la mer, ou... bon, ça reste un peu de la science-fiction. Mais il ne faut pas, je dirais, considérer que c'est une sorte de butoir sur lequel on tombe dès à présent. C'est un problème de réflexion à long terme. Il faut au moins tenir compte des deux phénomènes, c'est-à-dire l'évolution démographique du monde, qui est elle-même assez inquiétante déjà, en fait, dans ses rythmes actuels. Mais en fait, il n'est pas sûr que ça ne se renverse pas, plus ou moins. Vous savez, l'Afrique, On disait que l'Afrique allait exploser démographiquement. Moi, je me demande si l'Afrique n'est pas, dans une certaine mesure, condamnée par le sida. Il y a malheureusement des évolutions qui peuvent se produire dans tout genre. Alors, n'en faisons pas, en quelque sorte, une sorte de butoir qui empêcherait toute autre réflexion. Voilà.
Monsieur, si ça marche maintenant.
Oui. Maintenant, ça marche très bien. Si toutefois vous me permettez, je voudrais vous poser la question, et elle serait la suivante, ce sera à propos de la tempête. J'ai lu certaines publications, par hasard, j'étais tombé, c'est-à-dire en les ayant lues, où il avait été dit que ça avait été dû à un réchauffement, c'est-à-dire de la température. J'aimerais savoir, il y a des explications scientifiques qui vont dans un sens, d'autres dans un autre sens. Ce sont des idées, mais ce ne sont pas des finalités scientifiques, c'est ce qui est très inquiétant. Et j'aimerais savoir votre point de vue, c'est-à-dire à ce sujet. Je vous en remercie.
Alors, je déclare mon incompétence totale pour donner une réponse scientifique dans ce domaine. Mais je vous ferai une histoire. Longtemps, on a cru, historiquement, et pour expliquer l'histoire longue, au changement de climat. Et je me souviens que quelqu'un que vous avez dû entendre il y a quelques jours, et qui est un ami intime, Jacques Le Goff, avait de l'irritation contre ces changements de climat qui venaient toujours expliquer, au fond, des choses qui auraient pu être expliquées un peu plus subtilement et un peu plus humainement. Alors, je ne sais pas. Mais il est certain qu'il se passe quelque chose, il est certain que la couche d'ozone, ça existe, il est certain que le renforcement des températures, ça existe. Alors je sais bien que c'est la langue vulgaire qui veut qu'il n'y ait plus de saison et que depuis la bombe atomique, enfin, etc. Mais ce qui m'inquiète, moi, plus directement, si vous voulez, c'est ce côté non contrôlable et qu'on ne peut pas enfermer dans un périmètre de nos risques. Actuellement, dans une ville qui a une raffinerie de pétrole, elle prend des dispositions pour que cette pollution par le pétrole ne s'étende pas sur cette commune. Mais la pollution par le pétrole peut s'étendre n'importe où. Une fois que c'est dans l'air, ça a une géographie de déplacement, de mobilité. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Ce sont plutôt les petites choses, je dirais, pour l'instant, que ces grandes évolutions climatiques, dont personnellement, je ne le dis pas, elles sont vraies, elles ne sont pas vraies, il y a telle explication, il n'y a pas telle explication, parce que alors-là, ça n'est vraiment pas de ma compétence. Mais en tout cas, je juge, par le milieu urbain que je connais, la difficulté à enfermer le risque dans un périmètre. Et n'oubliez pas le Tchernobyl.
Encore deux questions, une ici rapidement et une ici parce qu'il est tard.
Bonsoir. La géographie mondiale physique a toujours obéi à des considérations géopolitiques. C'est pourquoi elle n'a pas cessé de changer au cours du temps, au rythme des guerres ou en fonction des rapports de force. Cette géographie continue de se modifier sous nos yeux. En effet, si la Chine vient de gagner des espaces territoriaux, le dernier en date, l'île de Macao, par contre, la Yougoslavie, on a perdu. Au Proche-Orient, on s'attend également à des modifications territoriales, grâce cette fois à des accords de paix et non des actes de guerre. On se rappelle aussi que les Anglais ont fait la guerre pour récupérer les Malouines, ont fait la guerre aux Argentins pour récupérer les Malouines. Les frontières de certains pays colonisés ou vaincus ont été arbitrairement dessinées. La question que j'aimerais poser aux géographes émérites que vous êtes, c'est celle de savoir si les espaces territoriaux ne sont pas encore de nos jours l'objet de convoitises permanentes obéissant à des stratégies d'intérêt politico-économique. Je vous en remercie.
Oh, ben je vous dirais que je suis à peu près d'accord avec vous là-dessus. Je dirais qu'il y a deux choses qui me séduisent dans ce que vous avez dit, enfin, m'intéressent. C'est que d'une part, il y a des gens qui se battent encore pour avoir un territoire. Et qu'alors, c'est la réflexion sur la notion même de territoire, je pense que c'est la difficulté à laquelle se heurte notre représentant au Kosovo, M. Kouchner, c'est le territoire, on voudrait bien que ça soit l'altérité. Je crois que c'est très important pour le territoire. Et à partir de quand aura-t-on au contraire des territoires qui seront des territoires uniquement homogènes, des territoires ethniques? Il y a là un problème très grave dans lequel s'engagent bien entendu des intérêts supérieurs, ça je ne le dis pas, mais qui partent aussi de la base, si vous voulez. Et je crois que ça, c'est un des problèmes très graves. parce qu'en effet, nous risquons d'évoluer d'une notion de territoire qui semblait relativement maîtrisée à une notion de lutte tribale, je dirais, qui est beaucoup plus perfide dans son principe. Mais chacun cherche son territoire. C'est en fait, c'est une demande, ça existe dans le monde, et les Palestiniens veulent avoir un territoire, par exemple, parce que ça semble encore, et je crois que ça l'est, le moyen d'exprimer quand même une force politique. Il n'y a pas encore de force politique qui ne soit pas son territoire. Alors qu'il y ait des puissances politiques qui, hors de leur territoire, cherchent à manipuler, je dirais, les territoires en fonction de tel ou tel intérêt économique. Bon, le pétrole, ça existe, et ça n'existe pas partout, donc ça entraîne une géopolitique du pétrole, et bon, c'est vrai. Ceci dit, là encore, il ne faut pas... Tout le monde est plus ou moins intéressé, c'est-à-dire il y a à la fois les puissances dominantes et les puissances qui tirent leurs avantages de cette domination, il y a la répartition des bénéfices, il y a tout cela, c'est quand même assez compliqué, je crois. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer la géographie et l'histoire uniquement par un pouvoir dominateur. Je crois qu'il y a l'agrégation autour de ce pouvoir de volonté, d'avantages, et qu'il y a des agrégations presque individuelles, si vous voulez, qui jouent dans ce monde. C'est très compliqué. Je ne voudrais pas que la géographie, qui fixe en effet des lieux où précisément s'exprime le besoin de territorialité ou la lutte pour les territorialités d'homogénéité ethnique, ce qui est plus grave. Je ne voudrais pas que, dans le fond, la notion de pouvoir et de manipulation enlève le caractère de contradiction humaine qu'il y a souvent à la base de la notion de territoire. Et je crois que ça, c'est important. Est-ce que c'est notre problème aussi. La mixité, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est jouable? Et quelle mixité? Et on en vient à des notions d'espace public, d'intérêt public. Alors, quel est l'intérêt public? Et quel est l'intérêt public aujourd'hui au niveau de la planète? Alors, il est évident que là aussi, l'intérêt public risque d'être l'intérêt des plus puissants. Bon. C'est un fait que je ne suis pas en désaccord total avec vous.
Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question courte, mais elle est très grave. La tempête et Eureka sont des prises de conscience. Mais la question en suspens, qui reste en suspens, c'est, et qui me tarabuste personnellement, qu'adviendra-t-il de l'Europe géographique si la glace du pôle Nord fonde?
C'est une bonne question. Bien, vraisemblablement... si je tiens compte des mécanismes qui se produisent, si la glace polaire fond, en partie seulement, il y aura une hausse du niveau des eaux, c'est-à-dire que la Terre sera en grande partie envahie de nouveau par la mer et que nous aurons un recul du littoral d'un certain nombre de kilomètres ou de centaines de kilomètres. Bon, je ne peux rien vous promettre de ce côté-là, mais après tout, Berlin sera peut-être une grande plage à la mode, ou Vienne, un bord de mer.
Merci.